Au quotidien, 5e édition. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Francine Forget au micro, en solo. En fait, Yvan Delaurier, comme on l'a mentionné la semaine dernière, est absent aujourd'hui pour quelques semaines. La semaine prochaine, il viendra peut-être nous faire un petit coucou à distance. Hein, la technologie nous permet tellement de choses aujourd'hui. Une petite chronique parce qu'il va... Il a accepté de partager ses vacances. Hein? Quelle générosité! Devant moi, cependant, je ne suis pas seule. Donc, je fais un duo, mais cette fois avec le metteur en onde, le régisseur Mathieu Tessier. Bonjour,
Bonjour
Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Ça va bien ce matin?
Ça va.
Vaillant, Mathieu. Il dit que ça va, mais en fait, c'est parce qu'il est vaillant. Mathieu, il a fait une chute en vélo parce que, comme vous le savez, il vient souvent en vélo.
De bonne humeur et en vélo.
De bonne humeur et en vélo. Et ce matin, ça s'est pas déroulé tout à fait comme d'habitude.
J'ai un sac de glace qui me porte compagnie de mon côté. Voilà.
Un sac de glace, donc accompagné du sac de glace. Donc, on commence à être plusieurs, là. Hein? On forme une équipe.
Ben oui, on est trois au moins ce matin.
Au moins trois, mais dans le sac de glace, je sais qu'il y a plusieurs glaçons, je vous ai vu faire. Alors, on est un groupe, on se soutient et on espère qu'on va faire une très, très belle émission avec vous. Quand je dis on est un groupe, évidemment, on parle des glaçons, là, mais on a des gens pas mal plus importants que les glaçons de Mathieu. Alors, ce matin, notre ami Serge Hamelin sera ici pour nous parler des insecticides. Marcel Dugas aussi. Ah, Marcel Dugas, c'est un peu... c'est mystérieux ce matin, sa chronique. Bon, il va nous parler de noms de rues, de villes, de cantons. Mais c'est vrai que tous ces noms-là qu'on voit régulièrement, on ne sait pas toujours pourquoi on a nommé ces rues, villes et cantons de ces noms. Est-ce qu'ils étaient si populaires? Est-ce que c'était vraiment des héros? Qu'ont-ils fait? On ne le sait pas. Notre amie estrienne aussi, Monique Kerouac, toujours fidèle au rendez-vous. Et je m'entretiendrai avec le directeur des services aux loisirs de la Fondation des aveugles du Québec, Steve Joseph, un peu plus tard. Alors, comme vous voyez, on a un beau menu. On va commencer, même si notre ami Yvan n'est pas ici, par nos faits saillants de la semaine. Est-ce que vous en avez, vous, des faits saillants cette semaine, Mathieu? À part votre chute, là, ce matin.
Non, mais c'est pas un fait saillant. Ça a dû être un fait saillant pour ceux qui m'ont vu tomber tantôt, mais... Non, moi, je vous laisse toute la place.
Toute la place.
Moi, je suis comme ça. Moi, je suis généreux ce matin.
Ben oui, vous êtes généreux. Vous êtes très généreux. C'est apprécié. Vous savez comment je suis volubile.
Oui, exact. Il faut dire que j'étais un peu bloqué aussi. Fait que je vais juste vous laisser.
OK, on va être indulgent à votre égard. je vais d'abord faire un petit retour. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'exposition de Yayo Kusama à la Fondation Phi. Et je vous ai dit, bon... Après l'émission, allez tout de suite vous mettre en queue parce que c'est une journée où on donne des billets à la Fondation Phi pour aller voir les deux principales pièces, je dirais, de cette exposition. Il y a eu 10 000 personnes, je ne sais pas si c'est tous des auditeurs de Canal M qui se sont présentés, n'est-ce pas?
Vous avez dû
présentés
pouvoir,
au téléphone. Et qu'ils ont attendu. Malheureusement, il y avait seulement 5 000 laissés-passer pour le mois d'août qui étaient disponibles. Alors, ils ont tous été attribués très rapidement. Ce que je veux vous dire, c'est pourquoi je vous en parle ce matin, c'est que je vous rappelle qu'à tous les 15 du mois, et ça jusqu'à la fin de l'année, ça va être possible de reprendre l'exercice. Mais il y a un engouement que le Centre Phi n'avait pas prévu. Radio-Canada a fait un petit follow-up, comme on dit dans le métier, sur cette situation-là. Et je vous donne un peu le résultat de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, le Centre Phi, devant cette popularité à laquelle il ne s'attendait pas, pour cette artiste japonaise de 93 ans, mais qui fait des choses tellement merveilleuses, il faut dire que la critique a été dithyrambique, alors c'est un peu ce que ça donne. Les fans de l'artiste et autres pourront voir ses créations colorées sans réservation le dimanche de 11h à midi. Donc, à partir de maintenant... En plus, il y aura des tirages de billets qui vont être prévus sur la page Instagram du Centre Phi et de sa fondation. Alors, si vous n'êtes pas inscrit à la page Instagram de la Fondation ou du Centre Phi, allez-y tout de suite et peut-être serez-vous l'heureux gagnant d'un billet, d'un laissez-passer pour aller voir cette merveilleuse exposition.
Je le fais de ce pas.
Ben, faites-le de ce pas parce que vous allez voir que c'est quelque chose de très particulier. Dans les faits saillants de cette semaine aussi, vous vous rappelez la semaine dernière, j'ai commencé à vous parler des acteurs de changement dans leur domaine qui font l'actualité, mais qu'on connaît peu ou pas. Et je m'appuyais pour le faire sur cette série que la Presse Plus a entamée il y a quelques semaines. Caroline Touzin, cette semaine, nous a présenté le portrait de Maître Alain Arsenault. Alors, Maître Alain Arsenault, c'est un avocat qui consacre sa vie à dénoncer le racisme systémique, la brutalité policière, à poursuivre des agresseurs sexuels au nom des victimes. Et aussi, il y a la cause, je dirais, la cause autochtone très à cœur, toute la question des pensionnats et des agressions que certains ont subies. Et ça m'a particulièrement touchée parce que j'étais en train de lire au même moment le roman de Michel Jean, en fait son dernier roman, je crois que c'est son dernier, oui, Tiotiake, qui a été publié en 2021 chez Libre Expression. Et Michel Jean, on le sait, c'est l'auteur de Cocoum, c'est un journaliste chef d'antenne. Il nous parle de ces gens de la rue, Inuit, Cree, Atikamekw, qui est de leur réalité quotidienne. Et dans ce roman, il y a un personnage d'une jeune avocate qui s'appelle Audrey, qui prend la cause de ces laissés pour compte. Et je trouvais ça intéressant de voir que c'était pas juste de la fiction, quoique Michel Jean, on sait qu'il appuie ses romans beaucoup sur la réalité, mais que ce n'était pas juste de la fiction, mais que aussi dans la réalité quotidienne, on avait ces gens qui sont préoccupés. Alors, M. Arsenault, maintenant, le maître Arsenault, il travaille avec une équipe de jeunes, et ça aussi, c'est intéressant parce que il y aura la relève. Hein, c'est ce qu'on se dit, quand lui ne pourra plus, il y aura d'autres qui pourront continuer. Alors il dit « Oui, je fais un job d'avocat, mais c'est aussi un job pour faire réaliser aux gens ce qui se passe, le système ne fonctionne pas. Et pourquoi il ne fonctionne pas? À cause de qui? Qu'est-ce qu'on doit changer dans les lois? » C'est des questions qui le préoccupent et auxquelles il nous invite à réfléchir.
Mordre l'éternité.
Une demande spéciale de vous-même, ma chère Francine. C'est rare que vous nous faites une demande musicale. C'était Mylène Farmer. Mylène Farmer. C'est une belle journée.
C'est une belle journée. J'espère qu'elle sera belle pour vous aussi, Mathieu, malgré le petit accident de ce matin. Alors, on va aller voir du côté des unes des journaux montréalais, des quotidiens. Je commence avec Le Devoir. Je vais vous parler de, je vais vous parler de l'Ukraine parce que il me semble qu'on en parle de moins en moins. Et c'est un peu le propos de Sandrine Vieira dans Le Devoir. L'Ukraine, loin des pouces, loin du cœur. Ce qu'elle nous dit, tant sur les réseaux sociaux que dans les données des moteurs de recherche, on observe une apathie grandissante pour la guerre. Alors, on consomme les nouvelles hein, comme tout aujourd'hui, et dans le cas de l'Ukraine, ça ne fait pas de différence. Il y a 5 mois, quand ça a commencé, hein, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, disons qu'on était très attentifs, l'intérêt du public était là, et depuis la fin février, ça a considérablement diminué. Par exemple, on voit que les requêtes sur les moteurs de recherche Google au Canada confirme cette tendance-là et que les premiers jours du conflit, on comptait beaucoup, beaucoup d'interventions. On en comptait plus qu'un 500 000 dans la semaine et beaucoup plus, 75 millions, excusez, et dans la semaine du 15 au 19 juillet, on est rendu à 500 000, soit un 500 000. Alors, il y a un écart extrêmement important et on le voit aussi, l'espace que ça occupe et où on place l'Ukraine maintenant dans les pages des journaux ou encore dans les écrans. Toujours du côté du Devoir, on parle de victimes de la chaleur. Canicule et changement climatique. Alors, comme vous savez, je vais me faire une petite pause météo. On est dans une canicule, il fait chaud, il va encore faire chaud aujourd'hui, il fera chaud demain avec du soleil et dimanche, disons que ça s'annonce moins beau, mais quand même encore assez chaud. Donc, Le Devoir se penche sur des victimes de la chaleur en recueillant 3 témoignages qui donnent un avant-goût du danger climatique qui guette le Québec de demain. Alexis Riopel se penche sur la question. Il parle entre autres de Julien Raza, qui maintenant, à chaque matin, quand il se lève, il a une migraine. Il a été victime d'un puissant coup de chaleur en 2018. Et la chaleur, c'est probablement la menace la plus concrète, la plus impitoyable et la plus inéluctable qui est posée par les changements climatiques au Québec. Il n'est pas le seul. C'est sûr qu'on fait toujours état, quand on parle de la chaleur, des personnes âgées, surtout celles qui souffrent de maladies chroniques, d'obésité. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas personne à l'abri et qu'il faut justement se mettre à l'abri du soleil, principalement, pendant ces périodes caniculaires. Monsieur Gaza, oui, c'est ça, Gaza, va devoir vivre avec ça toute sa vie. Et maintenant, dès qu'il y a de la chaleur, ça devient complètement intenable pour lui. Journal de Montréal, on est un peu plus positif, je dirais, dans les 2/3 de la page de la une, parce qu'on parle de vacances doublement méritées et on fait état, évidemment, des vacances de la construction qui vont commencer à midi. Les milliers de travailleurs de la construction du Québec qui accueillent comme une bouffée d'air frais ces vacances, particulièrement après la dernière semaine torride. Il faut dire que ça doit pas être drôle pour eux de travailler sous le soleil et la hausse de l'activité sur les chantiers. Ludovic Théberge du Journal de Montréal est allé rencontrer certains d'entre eux. En fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart vont passer leurs vacances ici. Alors, peu vont à l'extérieur du Québec, même s'il y a une levée des restrictions sanitaires. Il semble pas avoir trop de contraintes financières dans le sens qu'on se dit qu'on va se payer du bon temps, mais on va se limiter à des déplacements principalement dans la province au Québec et du côté de l'Ontario. Ce qu'on déplore d'une certaine manière, c'est qu'il n'y aura pas de prolongement pour la plupart, donc d'une 3e semaine, parce que pour un moment, il y a tellement de travail dans ce milieu de la construction que c'est pas vraiment possible de le faire. En une du Journal de Montréal, on a aussi en haut de la page, dans, je dirais peut-être dans le tiers, après Julien Lacroix et Gilbert Ozon, autour de Philippe Band, une autre carrière en humour qui se termine. Et Sophie Durocher a un commentaire là-dessus et en fait, elle pose une question qui sera clouée au pilori la semaine prochaine avec un gros point d'interrogation. Dans la presse plus, on fait aussi état de cette affaire Band. Il faut rappeler que c'est hier la presse plus qui a en fait lancé la nouvelle. Ce qu'on dit dans la presse plus, c'est qu'il y a une femme qui entend porter plainte et je vais m'appuyer principalement sur un article qui est paru dans Le Droit ce matin. Le service de police de Gatineau, en fait, invite la présumée victime de Philippe Band qui s'était manifestée hier à poser, en fait, à les rencontrer. Cette femme-là qui affirme avoir été agressée sexuellement en 2007 par l'humoriste s'était déjà présentée à la police de Gatineau à l'époque et on n'avait pas pris au sérieux sa plainte. Et on dit maintenant, le chef de service de police de la ville, M. Luc Beaudoin, il dit, vous savez, les choses ont changé, les méthodes d'enquête ont beaucoup, beaucoup changé. Alors, il invite finalement la dame à venir rencontrer le service de police. Et on sait que, d'après ce qu'on lit dans les différents écrans, qu'il y aurait, que la dame aurait l'intention de le faire. Toujours en une de la presse plus, on parle de voyageurs vaccinés invités à faire une quarantaine. Delphine Belzile parle de voyageurs qui sont revenus, qui se font bombarder d'avis erronés, qui les invitent à s'isoler à leur retour. Alors, l'Agence des services frontaliers du Canada reconnaît qu'il y a des ratés, encore une fois, mais assure que, bon, un nombre limité de personnes sont touchées. En même temps, elle profite de l'occasion, la journaliste, pour faire un petit rappel sur les passeports. Les délais sont encore loin d'être acceptables, mais il y a quand même des témoignages qui disent que quand on se présente en personne, c'est quand même assez bien organisé, mais que pour les demandes qui se font par le biais d'Internet, ce n'est pas toujours évident. Aussi, en une de la presse plus, il y a on fait référence à de la fraude coûts humains. Je vais revenir sur la fraude dans la deuxième partie de nos unes, puisque au soleil, dans la une du soleil, on fait aussi état de certaines fraudes qu'on doit subir, en tout cas, de lesquelles on doit se méfier, ça c'est sûr. Bonjour Monique.
Bonjour Francine, tu ne te sens pas trop seule?
Bien, Mathieu est là, maintenant oui. Tu es là, je vais me permettre de te tutoyer 5 secondes. Alors tu es là, donc non, ça va bien, puis je sais que tu arrives toujours avec un menu très intéressant, peut-être un peu avec un peu de chaleur.
Ah ben, on verra. Vous pourrez commenter à la fin. Alors, je vais d'abord parler santé, Francine. C'est l'organisme Partage Saint-François qui sera le mandataire du projet du nouveau centre de crise en santé mentale de l'Estrie. Et ça, c'est confirmé par le CIUS de l'Estrie. Et bien sûr, on ajoute à ça le CHUS, c'est-à-dire le centre de l'hôpital de l'Université de Sherbrooke. Alors, un soupir, semble-t-il, de soulagement pour le milieu communautaire, pour qui le projet a déjà fait l'objet de plusieurs frustrations depuis son annonce. En mai dernier, en fait, le président du regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l'Estrie clamait un frustrant manque de collaboration entre le CIUS et son regroupement. Mais en date du 18 juillet, ben, il remarque que la collaboration avec le CIUS s'est améliorée. Mais être satisfait serait un grand mot. Mais il est quand même content qu'il y ait une ouverture de la part du CIUS. Rappelons que le centre de crise est une ressource qui viendra en aide aux gens qui vivent des problèmes de santé mentale, les empêchant d'être en sécurité à la maison, sans par ailleurs nécessiter une admission en psychiatrie à l'hôpital. Donc, on espère que il va y avoir une belle entente entre ces deux organismes. Maintenant, parlons sport.
Alors, Alors, Yvan n'est pas là. Monique a dit « J'occupe l'espace sport ».
Voilà. Alors, il n'est pas nécessaire, semble-t-il, de fracasser des records de participants pour parler d'une réussite pour un événement sportif. Et on parle du Tri Memfrey, qui vient d'en faire la démonstration avec une 27e édition couronnée d'un succès éclatant avec des athlètes heureux, des bénévoles au rendez-vous et bien sûr la température qui a collaboré et des nouveautés qui ont eu l'heure de plaire.
Alors, Monique, sans oublier, oui? Tri Memfrey, c'est quoi? C'est triathlon Memfrey Magog?
Oui. C'est ça, exactement, exactement. Alors, on a, bien sûr, il faut souligner les athlètes du club de triathlon Manfred Magog qui ont procuré, semble-t-il, des sensations fortes aux membres de leur famille et amis qui étaient venus les encourager. Alors là, Francine, je vous parle d'environnement et je vous parle d'un petit animal, le lynx roux. Alors, imaginez que le parc national du Mont Harford fait circuler en ce moment des photos d'un lynx roux. Les images de l'animal sauvage ont été captées lundi par un employé du parc. Le félin était tout simplement de passage près des bâtiments du secteur Stockley, nous indique Mario Landry, qui est le directeur du parc estrien. Semble-t-il que c'est de la visite rare. Alors, si vous êtes curieux, bien, les photos ont été publiées sur Facebook et la direction en a profité pour remercier le membre de son équipe pour avoir pris ce magnifique cliché et fait prendre conscience, bien sûr, à la population de la diversité de la faune environnante. Toujours, je dirais, en parlant de Harford, eh bien, pour la première fois depuis plusieurs années, le mont Harford mettra en marche sa remontée hybride en plein été. Mais prenez bien note des dates parce que c'est un espace bien restreint. Tous les jours, du 23 juillet au 7 août. Alors, il sera possible de monter à bord pour avoir, vous pouvez imaginer, une vue imprenable sur toute la région estrienne alors que l'été bat son plein et que les touristes se font nombreux. Les billets de remontée sont en vente sur le site web de la montagne. Alors, on a juste à taper Mont Harford.
Est-ce que c'est nouveau, ça, Monique? Est-ce que c'est une initiative?
Bien, il semblerait que c'était... En fait, on le faisait à l'automne, mais là, c'était suspendu, en fait, pour l'été. Et bon, ils reprennent. J'espère que ce sera suffisamment populaire pour qu'on prolonge cette période qui est fort restreinte, là, du 23 juillet au 7 août. On verra. Il faut se tenir au courant et exercer peut-être certaines pressions pour que ce soit institutionnalisé et surtout prolongé. Je vous parle de divertissement.
En dernier, Monique, le temps file. Oui, alors, je vous écoute.
Alors, je vous parle de la troisième journée des festivités de la fête du Lac des Nations. Le ciel était gris hier soir, mais ça n'a pas dérangé quelques milliers de personnes d'être présentes au parc Jacques Cartier à Sherbrooke. On a vu les performances de Hubert Lenoir et Lard sur la grande scène de l'Auto-Québec. Alors, si vous passez par Sherbrooke, ben, ce soir, vous pouvez voir Salbarde ou encore Brigitte Boisjoli ou les Trois Accords. Samedi, pourquoi pas venir voir, entendre Michel Pagliaro et même The Guess Who. Alors, ça se termine dimanche, le 24 juillet. La programmation est sur le site web des fêtes du Lac des Nations à Sherbrooke.
Et merci. Voilà, merci beaucoup, Monique. Passez un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine.
On se reparle la semaine prochaine, à défaut de se voir.
Oh non, on se voit. J'entends votre voix et vous êtes là. Je vous vois.
OK, parfait.
Au revoir.
Bonne émission. Au revoir.
Alors, Je vous ai dit tantôt, en parlant des unes, que à la une de la Presse Plus, on parlait de fraude. En fait, une fraude de 30 millions livrée par un facteur. Alors, c'est un homme qui a reçu une lettre lui disant qu'il pouvait hériter de cette somme. Alors, évidemment, faut être très, très, très prudent. Aussi, dans le Soleil de Québec, on parle de la fraude de Sugar Daddy. C'est Victoria Barry qui en parle. Alors, c'est une fraude, en fait, où des hommes, principalement, contactent de jeunes femmes et les informent qu'ils vont recevoir un montant important de 1 500 $ par semaine. Pas vraiment de photos, de vidéos sexuelles doivent être requis pour avoir ce montant, juste parler. Et après ça, quand la jeune femme reçoit le montant, eh bien, on lui dit qu'elle doit le remettre, et etc., etc. Et là, on fait pression. Et évidemment, c'est très indisposant. Puis en plus de ça, c'est que comme on l'a déjà rentré dans son compte, si on fait la transaction après, c'est extrêmement dangereux, n'est-ce pas, pour la suite des choses. En parlant de suite des choses, au retour, Serge Hamelin.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forgette.
Je suis le petit roi, je dis n'importe quoi, ma pelouse est parfaite. J'ai fait 100 fois le tour, j'ai magasiné pour. J'ai l'âge de bronze, l'âge du bronzage, pas toujours eu la tête au-dessus du cou. Depuis l'invention de la roue. Avance à crédit, un grand tour de magie, tout ça finira bien par disparaître. Abracadabra. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes ici. Viens de plus, viens de moi. Je veux m'acheter un drone et filmer mon voyage sur le chemin de briques jaunes. Et pourtant, chaque nuit, je pleure et je me dis à qui ce cœur qui traîne dans la rue parmi les milliers d'invendus. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes ici.
Décidément, c'est la journée des demandes spéciales. C'était une demande spéciale de José qui nous écoute en ce moment. Alors voilà, c'était Patrice Michaud qui chantait « Vous êtes ici » à Canalem.
On est ici avec Serge Hamelin.
Oui.
Bonjour Serge.
Bonjour Francine.
Alors, les insecticides.
Ben oui.
Bon. Alors, comment se fait-il qu'on ait besoin de ça? Comment se fait-il qu'ils viennent vers nous et parfois plus près de certaines personnes que d'autres?
Oui, ça dépend de ce qu'on dégage. Et ce n'est pas nécessairement un parfum quelconque, c'est surtout le CO2 que nous expirons par notre chaleur corporelle et par notre odeur.
Et chacun expire ça de façon différente.
Oui, ça a l'air à ça. Il y en a qui... Les maringouins les aiment plus que d'autres parce qu'ils ont peut-être une sudation plus forte ou quelque chose comme ça.
Alors, pauvre eux, finalement, il n'y a pas beaucoup de solutions?
Bien, la solution, c'est de mettre des répulsifs ou des insecticides. Et moi, je suis extrêmement content d'avoir pris connaissance de ce sujet-là ce matin dans la revue Protégez-vous. Parce que j'osais pas me mettre ça sur la peau. Je me disais,
il doit y avoir
des réactions allergiques, des produits chimiques, ça rentre dans la peau et patati. Ben, ils m'ont rassuré. C'est le monsieur Boisvert, retraité de l'Université du Québec à Trois-Rivières et spécialiste des insectes piqueurs, qui dit que non, ça va, il n'y a pas de problème. Hein, on peut en mettre, mais pas en mettre sur les taux ce matin non plus, là, mais il faut en mettre à toutes les 3 à 5 heures. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire à part de ça? Donc, les moustiques, ils viennent se nourrir de notre sang, mais sont attirés donc par l'odeur du CO2 qu'on dégage. Alors, on va utiliser un anti-moustique et puis, maintenant, le risque de contracter au Québec, au Canada, une maladie, de développer des graves effets sur la santé à la suite d'une piqûre ou d'une morsure d'insecte, c'est très faible au pays. Bon, on a entendu le Nil, à un moment donné, hein, le virus du Nil, mais c'est négligeable.
Mais c'est encore ça. Là, le virus
c'est
du Nil.
C'est encore là, mais... Et puis, il y a un autre virus aussi, les tiques. Hein, les tiques, ça peut être porteuse de la Borrelia burgdorferi. Hein, bon, vous avez retenu ça, vous, là? Alors ça peut transmettre la maladie de Lyme. Et puis, 250 Québécois ont été infectés dans la province en 2020. Et puis, ils étaient exposés en Estrie et en Montérégie. Il y a d'autres secteurs qui sont à risque, par exemple l'Outaouais et la Mauricie, centre du Québec, mais dans le centre-sud de Montréal, on n'entend pas parler beaucoup.
Bon, alors pour une fois qu'à Montréal, il y a quelque chose qui est intéressant, allons-y.
Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je sais que vous aimeriez utiliser des produits plus naturels.
Et j'allais vous poser la question.
Ben oui. Eh bien, oui, il y a l'habitude d'utiliser un chasse-moustique à la citronnelle. Ben, maintenant, on n'en trouvera plus ici.
Ah, non. La citronnelle, c'est fini.
L'essence de citronnelle n'est plus homologuée comme insectifuge personnel au Canada. Par exemple, la marque québécoise Druide a remplacé sa précédente formule et emploie désormais l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, jugée plus efficace selon l'entreprise. OK? Alors donc, eucalyptus citronné et la marque est québécoise, la marque Druide. En passant, je vous dis ça.
Mais là, la citronnelle, il y en a encore.
Mais
on est sur la fin.
C'est-à-dire que ce n'est pas efficace, la citronnelle, finalement, comme telle. Il faut rajouter de l'eucalyptus et avec ce que je vous disais, l'huile essentielle de citron. Maintenant, il y a d'autres produits qui contiennent un mélange d'huile essentielle de citron, d'eucalyptus, d'aiguilles de pin, de géranium et de camphre, comme Citrobug, d'Héloïse Laboratoire, et sont reconnus comme des répulsifs par Santé Canada. Mais leur durée d'efficacité est indéterminée. En général, ça dure 3 à 5 heures quand on se vaporise. Il y a des vaporisateurs, il y a des crèmes, il y a des lingettes. Il y a 3. Et ça se vend entre 10 et 15 $. Ces insecticides-là, ces répulsifs-là.
Est-ce qu'on fait une différence en termes d'efficacité
enquête? C'est dépendant du taux de pourcentage de répulsifs qu'il y a dedans. Alors, la référence, les scientifiques ont une référence, et c'est le diéthyl M Acétoluamide, qui est communément appelé DEET. Vous avez sûrement vu
Oui.
D-E-E-T.
Oui.
Alors ça, c'est la référence. Elle est même souvent la norme sur laquelle les scientifiques se basent pour tester d'autres types de répulsifs. Il s'agit d'ailleurs de l'ingrédient actif le plus courant. Ça peut irriter la peau et ça peut abîmer certains tissus à l'occasion. Mais bon, si on veut pas... je vais terminer avec le DEET. Alors, selon Consumer Reports, un produit efficace qui en contient peut prendre plusieurs formes, soit en vaporisateur, en lotion ou en lingette. Alors, c'est ce qu'il y a de mieux. Ici, on dit que une concentration jusqu'à 10 % les enfants de 6 mois à 2 ans peuvent en mettre, les enfants de 2 à 12 ans jusqu'à 10 % et des personnes de plus de 12 ans jusqu'à 30 % de concentration. Et c'est à ce moment-là que c'est le plus efficace. Le DEET, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Cependant, il y a l'icaridine, ça, je ne savais absolument pas. Un très bon produit qui était aussi appelé picaridine à une concentration de 20 % qui est le plus courant. C'est très bon et surtout, comme me dit Jacques Boisvert, il en met parce que ça n'abîme pas ses vêtements. Alors, si vous ne voulez pas abîmer les vêtements, comme le DEET peut le faire, ben à ce moment-là, vous utilisez l'icaridine. Et puis, l'icaridine, on en trouve sur des tablettes. C'est comme la marque Ungava, Watkins, Piactive et Off, notamment. Alors, vous lisez sur la petite bouteille. Et si c'est de l'icaridine, vous avez moins de chances d'abîmer vos tissus.
C'est aussi efficace que le DEET.
C'est aussi efficace, oui, mais le plus efficace, cependant, si on ne veut pas se tromper, si on ne veut pas se faire piquer, c'est le DEET.
Le DEET qui reste le plus efficace.
Maintenant, dans les produits naturels, il y a même des huiles essentielles avec du soja. Ça peut fonctionner, mais c'est moins efficace à long terme. Il faut en mettre plus souvent. Mais là, il y a une chose que j'ai appris, moi. J'étais très content d'apprendre ça. C'est qu'il y a des vêtements qui repoussent les insectes. La permétrine est un insecticide qui se trouve dans certains produits ménagers utilisés pour lutter contre différentes espèces nuisibles, les guêpes, les coquerelles, les araignées, etc. Et depuis juin 2017, les vêtements qui en sont imprégnés au moment de leur fabrication sont aussi homologués au pays. Puis lorsqu'un moustique ou une tique s'approche du tissu traité ou qu'il atterrit et rampe dessus, la permétrine irrite le moustique ou la tique, l'incitant à s'éloigner avant d'avoir eu l'occasion de piquer ou de mordre, déclare Santé Canada. Et est-ce que ça marche? Consumer Report a testé des vêtements de ce genre en 2016 et certains ont été jugés très, très efficaces, mais moins que l'utilisation du DEET à une concentration de 30 %. Alors, moi, j'ai su qu'il y avait des vêtements, mais si vous portez des vêtements, n'oubliez pas de vous mettre dans le cou, si vous n'avez rien dans le cou et rien dans les figures, de vous mettre autre chose, de vous mettre du DEET, par exemple, ou de l'icaritine. Et puis aussi, si vous avez des pantalons, mettez vos chaussettes par-dessus le rebord de vos pantalons pour pas que ça rentre par en dessous. J'ai appris, moi.
On va suivre vos conseils, Marcel, je pense à Marcel Dugas qui va suivre.
Ah bon?
Franchement.
Non,
merci beaucoup, Serge, pour cette chronique.
Merci.
Et puis, on va espérer pas avoir trop besoin de recourir aux insecticides et aux répulsifs dont vous avez parlé ce matin.
C'est beau.
Merci.
Un chat danse dans ma ruelle, sous un couvercle de poubelle. Butin inerte, douce découverte. Un ovni dans ma ruelle.
interpelle. Blancheur inhabituelle, odeur corporelle. Un musicien dans ma ruelle, petit air de violoncelle.
C'était la chanson Maruelle que chantait Yves Desrosiers.
Alors, je suis en compagnie de Marcel Dugas. Bonjour Marcel, ça va bien?
Ben, ça va très bien vous-même.
Oui, ça va très bien. Alors, ce matin, votre chronique, c'est un petit peu intriguant parce que vous faites référence à des rues, des villes, des cantons à qui on a attribué un nom très précis. En l'honneur de gouverneurs anglais de l'Amérique du Nord britannique et du Canada, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont.
On en a nommé des toponymes en l'honneur de ces messieurs, tout particulièrement dans les cantons de l'Est et à Montréal, où on retrouve des rues Cathcart, Gosford, Metcalf, Lansdowne, Connaught. Ce sont tous d'anciens gouverneurs. Le gouverneur Aylmer a une rue à Montréal et a eu pendant longtemps une ville nommée en son honneur en Outaouais, aujourd'hui un arrondissement de Gatineau. Et je pourrais continuer la liste. Ils sont presque tous mémorialisés, y compris les gouverneurs qui n'ont fait que passer et n'ont pas laissé un souvenir indélébile. Et c'était normal à ce moment-là. Si vous étiez un personnage puissant, important, influent, vous alliez presque obligatoirement avoir votre rue ou votre comté ou peu importe. Ça faisait, pour ainsi dire, partie des égards dus à votre rang et, comme personne, en théorie, était plus puissant que le gouverneur, ben, il avait droit à tous les égards. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique en partie l'énorme disparité entre le nombre de toponymes rappelant le souvenir d'hommes versus ceux qui honorent des femmes qu'on retrouve au Québec et pas seulement ici, évidemment. Le genre d'occupation qui, jusqu'à tout récemment, nous permettait d'obtenir une stature digne d'une rue, mais c'était d'être politicien, militaire, religieux, homme d'affaires. Il y a bien quelques femmes qui se faufilaient à droite et à gauche, mais elles étaient en général exclues des chemins qui vous mènent vers la toponymie. Mais là, je m'éloigne un peu de mon sujet. Je vous disais donc, on a beaucoup de lieux chez nous qui rappellent des gouverneurs anglais, et je pense qu'aucun d'entre eux a une aussi grande place dans notre toponymie que John Cope Sherbrooke, gouverneur de l'Amérique du Nord britannique au début du 19e siècle.
Vous avez bien raison de parler de place, Marcel, parce qu'on le retrouve dans plusieurs villes et à Montréal, je vais vous dire que c'est dur de l'oublier.
Mais c'est une des rues majeures de Montréal, évidemment, la rue Sherbrooke. Et il a aussi la reine des cantons de l'Est, la ville de Sherbrooke, qui avec ses 173 000 habitants est la sixième ville la plus populaire du Québec, qui rappelle son souvenir. Mais qui était-il, ce John Cope Sherbrooke? Ben, c'est véritablement un militaire de carrière. Quand on utilise cette expression-là, on pense à des gens comme lui. Il entre dans l'armée en 1780, il avait à peine 16 ans. Il a combattu un peu partout en Europe, mais aussi en Inde. Il a fait des missions diplomatiques en Égypte. Il monte en grade et voici comment un de ses collègues militaires le décrivait. C'était un petit homme robuste et carré dont le visage révélait tout de suite la force de caractère et la détermination. Dépourvu de génie et d'éducation, on ne peut pas dire que c'était un portrait complaisant, s'opposait rude dans ses paroles, il avait le cœur bon et généreux. Sincère, direct, méprisant à l'égard des artifices, des ruses et de la mesquinerie, il exprimait son mécontentement avec une hâte bouillante et dans les termes les plus crus. Donc, cet homme qui avait beaucoup de qualités, également beaucoup de défauts, est nommé en 1811 lieutenant-gouverneur de la colonie de la Nouvelle-Écosse. Il va impressionner suffisamment à ce poste pour qu'on le nomme gouverneur général de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord en 1816. Et on pourrait penser que l'administration Sherbrooke, ça a été quelque chose de grandiose qui a changé le visage de la colonie pour lui mériter la rue, la ville et les autres toponymes qui rappellent son souvenir. Mais ce n'est pas le cas. Même si c'était quelqu'un, on l'a dit, de soupe au lait, qu'il parlait comme un charretier et était plutôt rigide dans sa conduite militaire, il a réussi une chose que bien des gouverneurs anglais n'ont pu faire, c'est-à-dire ménager les susceptibilités autant des francophones catholiques que des anglo-protestants. Il a noué d'excellentes relations avec Mgr Plessis, l'évêque de Québec, numéro un de l'Église catholique dans la colonie, de même qu'avec le chef de file politique des Canadiens français, Louis-Joseph Papineau, qui était alors un jeune politicien en début de carrière, et il a fait tout ça sans s'aliéner l'élite britannique, les marchands, etc. Donc son mandat, bref, ça a duré 2 ans à peine, s'est déroulé dans l'harmonie. Il n'y a pas eu d'affrontement majeur. Mais le fait de dire que votre mandat, ça ne s'est pas mal déroulé, ça ne veut pas dire que vous laissez un legs important pour autant. Et comme de fait, l'administration Sherbrooke a un bilan plutôt mince. S'il occupe une place aussi importante dans notre toponymie, c'est dû à la chance, purement et simplement. Parce que si la rue Sherbrooke, c'est aujourd'hui une des plus importantes voies de circulation à Montréal, 32 km en tout et pour tout, ça ne s'est pas fait d'un coup. On n'a pas un matin inauguré une rue qui allait de la Pointe-aux-Trembles jusqu'à Montréal-Ouest. L'artère s'est développée et s'est prolongée petit à petit.
Est-ce qu'elle a porté d'autres noms dans certaines parties?
Bien, tout à fait. La rue originale, en fait, a été ouverte à la fin du 18e siècle, sous le nom de la rue Sainte-Marie, à ce moment-là. Et c'était formé de 2 segments, le premier près de la rue de Bleury et le second entre Saint-Laurent et Sanguinet, donc une fraction de ce que c'est aujourd'hui. Et lorsque, vers 1817, on renomme la rue en l'honneur du populaire gouverneur général qui était en exercice à ce moment-là, on ne pouvait pas s'imaginer que la nouvelle rue Sherbrooke prendrait le genre d'expansion qu'elle a pris, que ça deviendrait la rue de l'Université McGill, du Musée des Beaux-Arts, de l'Hôpital Notre-Dame et du Parc La Fontaine, du Jardin botanique, le Stade olympique, bon, je pourrais continuer. On n'aurait pas pu deviner non plus qu'autant de gens bien nantis viendraient s'y bâtir. Les grandes fortunes anglophones se sont construites dans ce qui est aujourd'hui le centre-ville et les bourgeois francophones plus à l'est, ils ont tous choisi la rue Sherbrooke. Quoi qu'on aurait probablement dû se douter que le site avait un bel avenir. Si vous êtes déjà arrivé à pied, en vélo par exemple, par le sud à la rue Sherbrooke, vous savez qu'on a une bonne côte à monter pour s'y rendre. La rue du parc Maisonneuve jusqu'à sa limite ouest longe un escarpement d'une altitude moyenne de 45 mètres qu'on appelle la terrasse Sherbrooke. Et s'il y a bien une chose que les gens fortunés aiment, c'est d'avoir la ville à leurs pieds. Ils ont été nombreux à installer leur chic résidence au sommet de l'escarpement. Mais c'est vrai pendant l'année 1817, c'était pas un immense honneur que de voir son nom donné à ces 2 petits bouts de rue-là qui, de surcroît, étaient à l'extérieur de la ville de Montréal à ce moment-là. Et pour ce qui est de la ville de Sherbrooke, c'est pas mal la même dynamique. Les environs de Sherbrooke sont visités par des membres nomades de Première Nation depuis probablement 3000 à 4000 ans. Les Abénakis appelaient le site de la confluence des rivières Saint-François et Magog, qui est le cœur historique de Sherbrooke, Ktinékétoliquak, ce qui signifiait « grande fourche ». Et pour leur part, les descendants d'Européens s'installent sur le site de Ktinékétoliquak à peu près au même moment où on ouvre la rue Sherbrooke, au tout début du 19e siècle. Au départ, l'embryon de ville s'appelait Hyatt's Mill, donc littéralement le moulin de Hyatt, tout simplement parce qu'un immigrant américain qui s'appelait Gilbert Hyatt avait installé un moulin à cet endroit, et Hyatt's Mill devient Sherbrooke en 1818. Et au recensement de 1819, donc l'année après le changement de nom, le village de Sherbrooke comptait, tenez-vous bien, 54 habitants. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut dire que c'est un bel hommage à l'époque? Ce l'est devenu par la suite, mais les choses auraient pu tourner différemment. L'arrondissement de Lennoxville, autrefois la ville de Lennoxville qui est maintenant fusionnée à Sherbrooke, est nommé en l'honneur de celui qui a succédé à Sherbrooke au poste de gouverneur, Charles Lennox, 4e duc de Richmond and Lennox. Et si Lennoxville s'était mise à grossir, je vous parlerai peut-être aujourd'hui de l'arrondissement de Sherbrooke fusionné à la méga-ville de Lennoxville. Qui sait? En conclusion, Francine, on disait autrefois d'Agrippine, impératrice romaine au 1er siècle de notre ère, « La gloire que t'a valu l'éclat de ta vie ne vaut pas la chance que tu as eue de mourir au bon moment. » Mais je modifierais ça un peu pour parler de John Cope Sherbrooke, je dirais. « La gloire que t'a valu l'éclat de ta vie ne vaut pas la chance que tu as eue d'avoir la bonne rue et la bonne ville nommée en ton honneur. »
C'est vraiment intéressant de voir justement que c'est bien aléatoire finalement tout ça.
Absolument.
Mais oui, le nom des rues. Alors on va porter attention peut-être davantage, Marcel. Merci. Et la semaine prochaine, on vous attend avec une autre chronique tout aussi intéressante.
À la semaine prochaine.
Et si nos oreilles pouvaient remplacer les piles électriques, on fait en fait une recherche, Michel Demoninck, en tout cas, c'est pas toujours facile de prononcer les noms, et celui-là, pas particulièrement. Il est candidat au doctorat en biomécanique à l'École de technologie supérieure, et en fait, il se penche sur les prothèses auditives qui ont un talon d'Achille sérieux, c'est que leur dispositif d'alimentation énergétique, il est dispendieux, peu écologique, et il faudrait trouver une source finalement alternative. Et l'originalité de la source que lui propose avec d'autres, c'est que l'énergie produite à l'intérieur de l'oreille soit récupérée par un bouchon équipé de capteurs. Sa propre sœur, sa petite sœur, qui est étudiante, il parle de sa petite sœur, mais elle a 24 ans, elle a un appareil depuis l'âge de 8 ans et elle est dépourvue dès qu'elle n'a pas sa pile qui alimente sa prothèse vide. C'est-à-dire que quand la pile de sa prothèse est vide, elle est coupée du monde. Et pour éviter ce problème, bien évidemment, ça le motive à essayer de trouver une solution. Et il estime que la facture aussi, il prend l'exemple toujours de sa sœur, le coût d'achat d'une paire de prothèses auditives après 15 années d'utilisation, c'est extrêmement important. Et en plus, sur le plan de la consommation aussi énergétique et de l'environnement, puisque les piles qui alimentent tout ça ne sont pas nécessairement recyclables. Alors, au retour de la pause, je vais continuer à vous parler de cette recherche parce que c'est vraiment intéressant, même s'il y a encore des petits écueils pour arriver à des solutions exceptionnelles. Aussi, au retour de la pause, on va parler un peu techno avant de recevoir M. Steve Joseph, le directeur des services aux loisirs de la Fondation des aveugles du Québec.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget.
Alors, je poursuis sur les oreilles qui pourraient remplacer les piles électriques, cette recherche sur laquelle travaille Michel Demuynck. Je me suis pratiquée à dire son nom pendant la courte pause. Alors, on sent mieux. Il nous propose une petite expérience. Il dit « Insérez votre petit doigt dans l'oreille, ouvrez et fermez la bouche. Sentez-vous la pression que sur votre doigt? » Alors, il dit « Alors, Mathieu le fait. » On sent la pression, Mathieu? Ça dérange pas trop votre épaule là, qui est un peu abîmée?
Non? Non, ça va, ça va.
Bon, ça va, OK. Alors, il dit, lorsqu'on bouge la mâchoire, celle-ci comprime les tissus qu'il y a autour du conduit auditif, ça modifie sa forme, et cette déformation-là fait que on pourrait convertir ça en énergie électrique. Il y a plusieurs études qui ont, se sont penchées sur la question, qui ont évalué la quantité d'énergie qui provient de cette déformation. Ils ont obtenu des résultats encourageants. Cependant, ce n'est pas encore suffisant pour vraiment faire fonctionner au quotidien une prothèse auditive. C'est effectivement un écueil. Mais c'est un écueil sur lequel plusieurs travaillent et puisqu'on a vraiment pour objectif de changer cette batterie qui pourrait être qui est ou n'est pas rechargeable au moment où on se parle. Et on se dit que si on le fait pour certaines conduits auditifs qu'on utilise, par exemple, pour écouter de la musique et des choses comme ça, pourquoi ne pourrait pas pourront pas le faire pour ceux qui en ont vraiment besoin parce qu'il y a des problèmes d'ouïe. Et en terminant, il parle de Clara, sa sœur, toujours. Il dit qu'elle pourrait aborder son quotidien sans penser constamment à recharger ses appareils. Elle n'aurait qu'en cas de panne électrique à mâcher une gomme, à fredonner sa chanson préférée et à ce moment-là, oups, ça serait reparti. Mais aussi, non seulement pour sa sœur, il y aurait à ce moment-ci au Canada 200 000 Canadiens qui ont une déficience auditive, qui n'utilisent pas de prothèse parce que ça coûte trop cher. Donc, cette recherche, c'est à suivre parce que ça pourrait être une avancée extrêmement intéressante. Les influenceurs, seuses, parce qu'il y en a beaucoup, sont-elles en train de perdre du pouvoir? Alors, c'est cette question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, sur le site de technologique Presse Citron auquel on réfère assez souvent, on dit qu'en lisant certaines études présentement, bien, peut-être que ça peut faire trembler justement ces influenceurs. Pourquoi? Parce que le marketing d'influence peut, jusqu'à un certain point, et vous allez voir pourquoi je nuance, être moins important qu'il l'a été. L'étude auquel on fait référence a été menée par une plateforme d'analyse sociale qui s'appelle N-Tribe, qui a sondé des consommateurs vivant aux États-Unis pour mieux connaître leur point de vue sur toutes les campagnes d'influence. Un constat va ressortir de cette enquête-là, l'impopularité des influenceurs pour la plupart des répondants qui disent qu'ils vont privilégier des avis de clients ordinaires. Donc, sur les médias sociaux, ils vont aller voir d'abord les commentaires de gens qui, on suppose, sont des utilisateurs ou ont entendu parler de ces produits-là plutôt que de se référer à la publicité qui est faite par les influenceurs. Ce qui fait dire à l'auteur de l'article que les influenceurs ont très mauvaise presse. 85 % des personnes qui ont été sondées jugent que les influenceurs sont payés pour dire des choses positives. Donc, étant payés par une entreprise, ils font valoir les produits sans nuance. C'est vrai qu'ils sont payés. Maintenant, est-ce que c'est sans nuance? Ça reste à vérifier. À l'inverse, quand c'est un contenu qui est fait par un utilisateur, bien, on dit, il n'est pas payé pour ça, il est jugé fiable, et s'il nous fait partager son intérêt, c'est parce que, justement, il pense que ça peut être bon non seulement pour lui, mais ça peut être bon pour d'autres aussi. Donc, la réputation d'une marque et d'un produit culturel peut être mise en cause quand il s'agit d'influenceurs. On va jusqu'à cette conclusion-là dans l'enquête. Encore plus alarmant pour les entreprises qui ne communiquent que par ce biais, parce qu'il y en a de plus en plus qui communiquent uniquement par ce biais, parce que au total, ça coûte moins cher, parce que aussi, on le sait, pour différentes catégories d'âge, ce n'est pas toujours évident de faire de la publicité dans les médias dits traditionnels. La 29 %, donc près de 3 personnes sur 10 des personnes interrogées disent que ça les amène non seulement à voir ça négativement quand le contenu est véhiculé uniquement par un influenceur, mais aussi que ça développe chez eux une espèce de méfiance. Donc, si un influenceur, il ne fait que vanter le produit, on devient méfiant. 64 % des consommateurs américains disent que il y a une saturation de toute façon de ces contenus-là. Donc, ça veut dire qu'on, quand on parle de saturation, ça veut dire qu'on passe par-dessus quand on arrive sur les médias sociaux pour aller voir autre chose. La confiance, donc, diminue et on se rend compte aussi que quand il y a de la publicité, le pourcentage de gens qui consultent les médias qui sont plus, je dirais, utilisés par les influenceurs, là aussi, on voit que ça diminue quand on regarde les pourcentages. Le YouTube redemeure le plus populaire chez les 16-44 ans. On dit que près de 3 personnes sur 10 qui vont être incitées à acheter après avoir visionné une vidéo, mais on parle d'une vidéo qui a été sponsorisée. C'est pas nécessairement une vidéo où on voit des influenceurs, mais plutôt carrément une bonne pub. 24% si on s'en va sur Instagram, donc Instagram qui était probablement la reine il n'y a pas si longtemps de ce type d'intervention, et 15% sur TikTok. Quand on regarde ça, finalement, on peut se dire que la publicité traditionnelle ne devra pas être oubliée par les grands responsables de marketing des entreprises. Quoique, chez ces responsables de marketing, il y en a encore 7 sur 10 qui pensent que les influenceurs ont un impact positif sur leur marque et qui doivent continuer à recourir à leurs services pour leur vente et la vente de leurs produits et publicités et entreprises, images d'entreprise sur les médias sociaux. Alors, disons que le point de vue des consommateurs avec ceux qui sont responsables des campagnes marketing ne sont pas nécessairement alignés pour le moment.
Vivre tout au confin de moi-même pour éviter le pire, les yeux bien fermés, puis dessiner en moi du mieux l'avantageux en résumé. Yeah. t'envoie cette courte prière, par adhésion avouée. L'amour n'est-il pas en d'entrouvrir l'autre et ses possibilités, aux risques et périls d'être abandonné.
On a reconnu la voix de Daniel Bélanger qui chantait « Traverse-moi ».
Merci Mathieu. Bonjour Steve Joseph.
Oui, bonjour Francine, ça va bien?
Oui, ça va bien vous aussi. Alors je rappelle que Steve est directeur des services aux loisirs à la Fondation des aveugles du Québec. Qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler des événements de sa fondation. Et j'espère que la chaleur ne compromet pas vos activités quand même.
Ah ben non, c'est rien. Sérieusement, là, je pourrais vous dire que même que c'est encore mieux pour nos activités, la chaleur, parce qu'on a beaucoup d'activités aquatiques aussi qui s'en viennent. Et présentement, justement, les jeunes, en ce moment, ils sont au camp Val-Notre-Dame à Hérouville. Et c'est leur retour aujourd'hui. Évidemment, les parents vont venir les chercher à 16h cet après-midi, mais ils viennent de finir la semaine au complet au camp Val-Notre-Dame avec encore des activités aquatiques ainsi que des activités sportives et récréatives.
Ça fait 3 semaines. Non, je crois que le camp a commencé, c'est ça?
Le camp est commencé, là, c'était 4 semaines.
Donc, 4 semaines.
Autrement dit, là, on est rendu à la semaine 4 présentement. Puis la semaine prochaine, évidemment, c'est parce qu'on a toujours une semaine de camp de vacances, de camp de jour, de camp de vacances, de camp de jour, de camp de vacances. Quand on parle de camp de vacances, ils s'en vont en colonie de vacances ou bien sur une base de plein air, tout simplement. Comme deuxième semaine, ça a été comme les enfants sont allés au camp Maris, et puis les ados, eux autres, nos plus vieux, sont allés, eux autres, ils ont fait un road trip au Mont-Tremblant, où est-ce qu'ils sont allés, ils étaient dans le village du Mont-Tremblant, puis à partir de là, ils faisaient des activités un peu partout dans la région du Mont-Tremblant.
Road trip en vélo, en auto?
Ils sont partis en autobus, mais... ils dormaient au Holiday Inn, mais à partir du Holiday Inn, bon, ben, ils allaient faire, mettons, une journée, ils allaient faire du zipline, comme la tyrolienne. Une autre journée, ils allaient faire, drafting. Une autre journée, ils allaient faire une randonnée en canot. Donc, c'est ce qu'on a appelé road trip dans le fond.
Ah, très intéressant. En fait, ils se déplaçaient beaucoup d'un point à un autre et d'une activité à une autre. La COVID s'est pas installée dans vos camps de jour, non? Il n'y a pas eu de problème?
On n'en a pas eu. J'ai mis une réglementation un peu plus sévère de ce que la santé publique nous recommandait. Ils recommandaient pas grand chose, nous autres, à part qu'on avait droit à avoir, mettons, à faire nos propres règlements. Donc, nous autres, quand on se promène, mettons, en autobus, j'aimerais que les gens portent le masque dans l'autobus. On continue à désinfecter les mains. S'il y a possibilité de toujours être à l'extérieur, et c'est pour ça que le beau temps et la chaleur, nous autres, ça nous dérange pas trop. On aime bien ça. Puis, en même temps, vu qu'on n'est pas un gros, dans le fond, un gros camp, mais, parce qu'on a à peu près 20-25 jeunes, qui est à peu près le même nombre de moniteurs, parce que nous, c'est du 1 pour 1, évidemment.
Oui, oui.
Donc, il y a possibilité, nous autres, d'être à distanciation facilement, surtout que maintenant, on a un grand emplacement où est-ce qu'on peut... On a une école au complet à nous, là. Donc, on est capable de... Alors qu'on va toucher du bois, que ça continue comme ça, là. Mais non, ça s'est pas installé chez nous encore, la COVID. Puis on espère bien que ça le fasse pas non plus.
Tant mieux, tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres événements que vous aimeriez souligner?
Ah ben oui, on a la semaine prochaine, qu'est-ce qui s'en vient? Là, ça c'est assez gros là. On a lundi, on s'en va faire du deltaplane, donc dans le bout de Saint-Hyacinthe. On a aussi la ronde qui est mardi prochain. Ils s'en vont à la plage mercredi, évidemment. Puis par la suite, on va faire de la musique avec Musicomax. Et évidemment, vendredi qui s'en vient, ben on va faire le Soccer Bull au Parc Maisonneuve. Et on a rajouté quelque chose maintenant avec le Soccer Bull. On a invité, mettons, l'administration, l'équipe administrative de la Fondation des aveugles du Québec à jouer contre les jeunes et les moniteurs. Donc, ça va être quelque chose d'assez, je vous dirais...
C'est un défi qui est très, très motivant.
Oui. Ou de un, puis de deux, ça s'est jamais fait, parce que là, présentement, on essaie de faire plus de, mettons, d'accompagnement au niveau de notre administration, au niveau de nos moniteurs, plus de joindre de faire un seulement avec l'équipe de la Fondation des aveugles, puis là, ça va être quelque chose de super. Moi, je vous dirais, les mots me manquent quand je dis ça, parce que j'ai des frissons, parce que ça s'était jamais fait, puis on les voyait tout le temps, mettons. L'administration nous voyait tout le temps, genre, OK, les loisirs sont là-bas, puis là, maintenant, vu qu'on est un à côté de l'autre, parce que notre emplacement à l'école est juste à côté du bureau administratif, donc à ce moment-là, on va être capable de pouvoir faire des choses plus ensemble, mettons, pour augmenter le sentiment d'appartenance à la Fondation des aveugles du Québec.
On sent votre enthousiasme dans la voix.
Ah, ben bien
ah
sûr,
oui,
bien
ah oui, ah oui. On sent, vous avez hâte. Rapidement, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez signaler avant qu'on se quitte?
Ben, tout simplement que si jamais il y en a qui veulent avoir plus d'informations, de nous appeler à la Fondation des aveugles du Québec et ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Oui, puis votre site est très bien fait aussi, là, hein? Fondation singulier des aveugles en un seul mot, .org. Alors, je vous remercie beaucoup, Steve Joseph, d'avoir été avec nous. Et à une prochaine.
À une prochaine, certain. Bye.
Ta tête qui tourne, tourne autour de toi. Les sentiments qui déboulent du bout de nos doigts. Et tu m'ouvres la porte sur tes insomnies. Songe trouve l'œil qui t'emporte plus creux de la nuit. Et pourtant, je m'acharne à faire naître un sourire dans tes yeux qui s'échappent. Qui cherche un répit. T'es comme un éléphant dans un placard. Nos pas de géants ne nous mènent nulle part. Il met en courant, ça nous dévore. Tu sais gagner du temps, tu d'épuiser nos corps. Come.
j'avais face à tout ce que je croise. Donner la lumière, peur de
Sandrine Saint-Laurent sous ma voix, qui termine sa chanson « L'éléphant ».
Ça termine bien notre émission du 22 juillet 2022. Mais avant de se quitter, évidemment, fidèle à notre tradition, on parle de tradition, après 12 émissions de Au quotidien 5e édition, on se penche sur certaines activités qu'on pourrait faire ce week-end. Je ne sais pas, Mathieu, est-ce que vous allez aller... Il y a beaucoup, beaucoup de festivals à Montréal. On en parle abondamment dans les médias, mais Distorsion, on en parle moins. Est-ce que vous allez aller faire un petit tour?
Non, mais... Non, je vais aller voir des films de Fantasia.
Des films de Fantasia. Alors ouais. Ça aussi, c'est important de souligner qu'on est en plein festival de Fantasia et que Distorsion, bien, c'est un festival de musique et ça commence dimanche près du viaduc Van Horn. De mon côté, vous savez que j'aime beaucoup les activités gratuites. Alors donc, je vais commencer avec une exposition qui se déroule sur la rue, une exposition du musée McCord. Cette exposition se tient sur la rue McGill. On peut la commencer à De Maisonneuve. Elle se termine à Président Kennedy. Donc, c'est un court bout de rue. Ce sont de grands panneaux. C'est axé toujours sur la vie de Montréal. C'est vraiment l'ADN du musée McCord. Et ça présente une exposition qui s'intitule « Manger local ». C'est très intéressant parce qu'on parle de manger local, mais on n'est pas à aujourd'hui, là. On est entre 1860 et 1990. Alors, on se rend compte qu'on n'a pas inventé grand-chose quand on dit qu'on revient au local. Deuxièmement, ce qui est extrêmement intéressant avec ces panneaux, c'est qu'on découvre aussi que les jardins communautaires qui existent depuis longtemps, n'est-ce pas, ça a été une très belle occasion pour immigrés et gens d'ici de fraterniser, de discuter, de parler de leur culture et même de se familiariser avec des produits que les uns et les autres connaissaient et avaient la coutume de consommer. C'est extrêmement intéressant pour cet aspect-là. C'est aussi intéressant parce qu'on parle de l'agriculture urbaine. On parle aussi de nos marchés où il y en avait une multitude à Montréal. C'est sûr qu'à un moment donné, il en restait plus beaucoup après 1930, mais Atwater et Jean Talon étaient toujours là. Cette exposition, pour en savoir davantage, vous pouvez aussi télécharger une application ou encore lire le blog du musée McCord qui est sur le site du musée McCord, M-C-C-O-R-D. Vous allez directement arriver. Si vous faites cette petite excursion, quand vous êtes rendu à Président Kennedy, je vous invite à jeter un coup d'œil sur votre gauche et vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore vu, la façade de l'hôtel Germain. Je ne fais pas publicité pour cette chaîne d'hôtels, quoique c'est québécois, pourquoi pas, mais je parle de la murale. La façade est une murale extraordinaire qui a été réalisée par une artiste canadienne qui s'appelle Michelle Hoogwild. Ça s'est fait lors du dernier festival mural à Montréal et c'est fait pour rester. Ensuite, vous allez maintenant vers la droite, donc vous prenez Président Kennedy, vous allez jusqu'à la rue Victoria, c'est la première rue, et à votre gauche, vous êtes rendu dans la forêt urbaine du musée McCord. Et cette forêt urbaine, ça fait deux fois que j'y vais et elle est à l'ombre, quoique les arbres soient pas très, très naturels, mais elle est à l'ombre, il n'y avait pas de soleil, alors c'est merveilleux, il y a des tables à pique-nique et vous pouvez très bien vous y reposer. Vous pouvez aussi, si ça vous tente, d'observer la chaleur tout en étant à la fraîcheur, allez voir Fire of Love. Fire of Love, c'est un documentaire sur les volcans. C'est une histoire d'amour aussi entre deux vulcanologues, Katia et Maurice Craft. Marie Tison dans la presse plus en a parlé abondamment hier, mais j'y reviens parce que c'est vraiment intéressant. Je n'ai pas vu le film, mais j'aimerais bien y aller. Ces deux vulcanologues ont eu une passion. Ils sont malheureusement morts au Japon en 1981, en plein travail, justement, une éruption volcanique sur le mont Hanzin, mais disons qu'ils ont une vie extrêmement fascinante. Si ça vous intéresse, vous surveillez les horaires, Cinéma du Parc et Cinéma Cinéplex Forum. Enfin, j'en ai parlé la semaine dernière, mais là, cette semaine, c'est encore très d'actualité et encore plus d'actualité. C'est le film Confession, je m'excuse, de Luc Picard. Quand il fait chaud, là, ça fait du bien d'aller se rafraîchir. Et encore une fois, mais je vous promets, la semaine prochaine, je vais arrêter de le faire. Je vous invite à consommer cinéma québécois et pourquoi pas la dernière nouveauté en liste, Confession. Et sinon, ben, il y a Fantasia. Vous ferez comme Mathieu Tessier, qui était à la mise en onde aujourd'hui, que je remercie infiniment. Je remercie nos chroniqueurs et vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés en ce 22 juillet 2022.